je vais déclarer que je suis mort au péché, mais vivant pour Dieu. En le faisant, je m'engage. En le faisant, la puissance du Saint-Esprit se manifeste, me remplit et me fortifie contre toute tentation possible. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, à Romains chapitre 6. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Verset 2, il dit « Certainement ». Autre traduction, pas du tout. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous ne le pouvons pas, parce que lorsque nous avons accepté le Christ, nous sommes morts au péché et nous avons reçu une nouvelle nature. Demeurer dans le péché serait contraire à notre nouvelle nature. 1 Jean, chapitre 3, verset 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Cela va à l'encontre de la nature spirituelle que nous avons reçue lorsque nous avons été sauvés, et nous démontrons le changement interne qui a eu lieu en nous par l'acte externe du baptême. Il poursuit, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Maintenant, je suis ressuscité pour une nouvelle vie dans la grâce et par la puissance de Dieu, ce en vertu de sa générosité. Nous lisons au verset 4 que, tout comme le Christ a été ressuscité par la gloire du Père, et cette expression « la gloire du Père » fait référence à la force et à la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Romains 8 que Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Donc, tout comme il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, ce verset dit « de même » ou « de la même manière » ou « de la même façon » par le même moyen. Nous devons marcher en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit, et non par notre force ou par notre volonté. Romains 8, 13 dit, « Par l'Esprit, vous neutralisez les actions du corps. Par la puissance de l'Esprit qui est disponible, est accessible. Comment s'emparer de cette puissance? Vous devez d'abord savoir quelque chose. Que tout le monde dise, « J'ai besoin de savoir. » Versets 6 à 7. Sachant que, pas question de deviner ou d'espérer, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Notre vieil homme a été crucifié afin que le corps ne pêche plus. Celui qui est mort est libéré du péché. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme. Et vous vivez dans un corps physique. Vous êtes en réalité un être spirituel créé à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu est un esprit. Lorsque Dieu a insufflé le souffle de vie dans le corps d'Adam, celui-ci est devenu une âme vivante. Adam était un esprit parce que Dieu est un esprit. Nous sommes des esprits parce que notre Père céleste est appelé le Père des esprits. Il est question ici de notre vieil homme crucifié. Ceci signifie notre ancienne nature spirituelle. Par allusion à cela, à l'Église et à la mort de Christ pour le salut, Dieu dit, Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Que tout le monde dit « un esprit nouveau ». Dieu dit, « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans votre esprit. Votre esprit a été recréé. Il a été rendu nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous devons encore nous occuper de notre âme et de notre corps. Votre âme, c'est essentiellement votre intelligence, votre volonté, vos émotions. Jacques, écrivant à l'Église au chapitre 5, il dit « Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. » C'est donc une lettre écrite à l'Église. Et Jacques, chapitre 1, verset 21, s'adresse aux chrétiens. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Ce qui signifie que leurs âmes n'étaient pas encore sauvées. Nos âmes sont encore dans un processus de salut. Psaume 23. Il me redonne des forces. Mon esprit est recréé. Mon esprit est né de nouveau. La parole étant semée en moi, mon âme est en plein renouvellement. Elle se trouve dans le processus du salut. Romains 12, 2 le dit ainsi. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous renouvelons notre intelligence par la parole de Dieu. Et puis, nous avons notre corps. La nature du péché réside encore dans notre chair. Il y a un nouveau corps qui nous attend. Ceci fait partie de notre rédemption. Mais nous n'en avons pas encore fait l'expérience. Paul écrit ceci. 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le discipline. » Mais le point de départ est de savoir que vous êtes une nouvelle personne. Cela va au-delà du pardon des péchés. Vous êtes une nouvelle création. Une fois sauvé, le péché ne réside plus dans votre esprit. La première chose à savoir est qu'il y a eu un miracle dans votre esprit. L'essence de notre être, nous avons été changés. Notre ancien être est mort. Nous sommes nés de nouveau, recréés, renouvelés à l'intérieur. Nous devons donc le savoir en premier pour accéder à la puissance de l'Esprit qui nous donne la victoire sur le péché. Ceci est de considération primordiale. Regardez avec moi, si vous le voulez bien, les versets 10 et 11. « Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur. » Considérez. Le mot grec signifie « après avoir évalué en se fondant sur les faits ». Vous arrivez à une conclusion définitive, inébranlable. C'est ce que signifie le mot « considérer ». Je suis arrivé à une conclusion inébranlable, définitive. Et comme nous trouvons ce mot ici, et comme il est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament, il est littéralement une expression de foi. Je vais vous montrer un autre endroit où il est utilisé. Il est dit « par la foi ». Tout le monde dit « par la foi ». C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Oui, il offrit son fils unique en sacrifice, bien qu'il eût reçu les promesses, et que Dieu lui eût dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il, voilà notre mot, considérait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. Il reçut son fils par une forme de résurrection. Dieu avait promis à Abraham que par Isaac, le monde serait béni, les nations seraient bénies. Il avait donc ce fils miracle. Et un jour, Dieu lui dit, « Prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Maintenant, Abraham a considéré, « Bon, Dieu, tu m'as déjà promis que les nations seront bénies à travers mon fils, que ma progéniture va venir par ce fils. Très bien, si Dieu a promis cela, alors il devra le faire renaître des cendres du sacrifice s'il le faut. Je vais obéir à Dieu. » Et donc, ils partent avec un groupe de personnes, ses serviteurs, Ils arrivent au pied de la montagne indiquée par Dieu. Et alors, Abraham dit quelque chose. Il leur dit, « Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Nous reviendrons. Son calcul de la foi a affecté son discours. En fait, le mot du Nouveau Testament retrouvé ici en parlant d'Abraham est qu'il a considéré, qu'il a compté, qu'il a comptabilisé. Et aussi dans Romains chapitre 6, où il est dit « Considérez-vous comme mort au péché, reconnaissez-vous mort au péché. » Ce mot vient de la racine du mot « logos » dans la langue grecque. Certains d'entre vous sont familiers avec ce mot. C'est le mot qui signifie « quelque chose de dit ». Ainsi, l'idée de nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu inclut que cela affecte nos paroles. À cause des déclarations de Dieu concernant ce que le Christ a fait pour moi, par son sacrifice et parce que j'ai fait l'expérience de cette nouvelle vie, je vais déclarer que le péché ne dominera pas sur moi, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, que quand je me soumets à Dieu et résiste au diable, il s'éloigne de moi, que je suis mort au péché, mais vivant pour Dieu. Au fur et à mesure que je le fais, cela est pris en considération, et le Saint-Esprit me donne la force contre toute tentation. Donc, je sais que le vieux Bélès est mort. Il ne vit plus ici. Je suis un homme nouveau en Dieu. Par conséquent, je me considère mort au péché et j'en parle comme si c'était vrai, car Dieu dit que c'est vrai. Versets 12 à 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au verset 12, il dit « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. » Certaines traductions disent « Ne le laissez pas régner en tant que roi. » Et ensuite, il dit « Le péché n'aura pas de pouvoir. » Ces deux mots, « règne » et « pouvoir » dans la langue originale, parlent du règne de la domination d'un roi. Écoutez, le péché est un monarque détrôné de la vie du croyant. Il ne peut plus émettre d'édits ou de mandats. Il n'a plus d'autorité. Il n'est plus prééminent. Au mieux, il ressemble davantage à un bandit caché qui peut occasionnellement vaincre le croyant par surprise, mais il est rapidement et facilement anéanti. Le péché ne vous dominera plus, dit-il, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je veux que vous m'écoutiez. La loi exige l'obéissance et prononce un jugement lorsque vous échouez, mais elle ne donne aucun pouvoir pour obéir. La grâce exige aussi l'obéissance, mais elle donne le pouvoir d'obéir. Et si vous échouez, elle offre le pardon. Écoutez bien, par notre nouvelle nature, le Saint-Esprit a plus de pouvoir que la loi pour arrêter le péché dans la vie du croyant. Je le répète, le Saint-Esprit, en agissant à travers notre nouvelle nature, a plus de pouvoir que la loi pour arrêter le péché dans nos vies. Le péché ne vous dominera pas, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Merci à Dieu pour sa grâce. Selon le livre de Tite, au chapitre 2, la grâce de Dieu nous parle, nous enseigne et nous forme pour vivre une vie pieuse. Il ne s'agit pas d'un laisser-passer pour faire ce que nous voulons. Nous en arrivons donc au verset 15. Il pose la question suivante. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Pécherons-nous parce que la grâce offre le pardon? Non. Et encore une fois, c'est contraire à notre nature. Mais ici, au verset 15, Paul parle de quelque chose d'un peu différent du verset 1, où il disait « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Au verset 1, le verbe est à la forme continue. Pécherons-nous constamment? Ce n'est pas le cas au verset 15. En grec, le verset 15 parle d'un péché occasionnel. Devrions-nous pécher occasionnellement? La réponse est certainement pas. Et ici, il donne encore une autre raison pour cela. Au verset 16, « Ne savez-vous pas que si vous ne vous livrez pas à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Si vous en concluez que vous êtes libre de pécher occasionnellement sans conséquence, voici une chose à laquelle vous devez réfléchir. Cela peut vous conduire à être un prisonnier de guerre, enchaîné et tourmenté par un ennemi vaincu. Même si le péché a été vaincu par le Christ, si vous lui cédez, il pourra vous asservir. Et je sais que certains à ce stade se disent, « Bon sang, il vaut mieux jeter l'éponge tout de suite. » Et ils le pensent parce qu'ils luttent contre un péché particulier ou une habitude particulière. Eh bien, Paul, par le Saint-Esprit, le savait. Et donc, il donne en même temps un avertissement et une très bonne nouvelle pour ceux qui luttent. Verset 19, il dit, « Je parle à la manière des hommes à cause de notre faiblesse naturelle. » Je veux faire une pause à ce niveau. C'est un fait que notre nature est pécheresse. Il y a là une faiblesse inhérente. Mon esprit est né de nouveau, recréé, et pas sous l'influence du péché. Je suis né de nouveau. Ma pensée est renouvelée. Mon âme est en pleine restauration. Et ma chair est faible. Paul dit, « Regardez, j'écris à cause de la faiblesse de votre chair. Car tout comme vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et d'un débridement croissant, présentez d'ores et déjà vos membres comme esclaves de la justice pour la sainteté. » Il y a premièrement l'avertissement qu'un petit péché ne reste jamais petit. Le débridement conduit toujours à plus de débridement. Un petit péché ne reste jamais petit. Et voici la bonne nouvelle. La sainteté fonctionne de la même manière. Il dit, « Soumettez-vous à la justice pour la sainteté. » Weymouth dit, « Pour la sainteté croissante. » Cela fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous résistez au péché et que vous vous soumettez à Dieu, vous grandissez en grâce, vous grandissez en sensibilité au Saint-Esprit. Votre joie grandit aussi bien que votre capacité à faire le bien. Il y a un effet boule de neige. Et je me rends compte que certains de nos téléspectateurs qui vivent dans des endroits arides du monde n'ont jamais vu de neige. Mais si vous prenez une petite boule de neige, vous la tassez, vous commencez à la rouler dans la neige, c'est comme un aimant. Elle ramasse de plus en plus de neige et devient de plus en plus grosse. Et mes amis, la grâce de Dieu et la sainteté de Dieu fonctionnent de la même manière. Elle va de manière croissante. Maintenant, dans les deux versets suivants, 21 et 22, il dit en gros, « Comparez le fruit de votre ancienne vie avec le fruit de votre nouvelle vie. Et voyez lequel vous préférez. » Le fruit de l'ancienne vie, relations brisées, dépression, colère, peur, chagrin, honte. Le fruit de la nouvelle vie, paix, victoire, confort, assurance, joie. Je préfère vivre pour Jésus. Nous pouvons conclure en quatre points. Ils sont se souvenir, faire confiance, se repentir et recevoir. Se souvenir, faire confiance, se repentir et recevoir. Numéro 1, souvenez-vous que le péché promet toujours plaisir et joie, mais en fin de compte, il a servi et domine. Si vous envisagez ou êtes déjà impliqué dans une relation adultère, Et je ne dis pas juste comme ça. Le Saint-Esprit m'a parlé pendant mon temps de prière cette semaine. Peut-être c'est juste un flirt au travail, ou même une relation adultère sérieuse. Arrêtez. Cela ruinera votre vie. Cela donnera accès à l'ennemi dans votre vie et causera plus de dommages que vous ne l'imaginez. Arrêtez. Le péché promet plaisir et joie. Arrêtez. Mais en fin de compte, il a servi et domine. Si vous êtes en train de tromper quelqu'un dans une affaire commerciale, en ce moment même, pour votre gain personnel, arrêtez. Arrêtez tout ce que vous reconnaissez comme péché dans vos actes, sinon vous devrez en subir les conséquences. Très bien. Deuxièmement, faire confiance. Faites confiance aux promesses de Dieu et non à celles que vous lui faites. Les promesses que Dieu vous fait sont plus puissantes que celles que vous lui faites. D'habitude, on dit « Dieu, si tu me sors de ce pétrin, si tu fais ceci pour moi, je promets que je ferai cela. » Parfois, après un sermon ou par culpabilité, on dit « Dieu, je te promets que je ne referai plus jamais ça. » D'accord ? C'est peut-être bien, mais je vous dis que ce n'est pas suffisant. C'est comme si vous veniez avec une goutte d'eau alors que vous avez besoin de tout l'océan Pacifique. Votre promesse est comme cette goutte d'eau. Mais les promesses de Dieu sont surnaturelles et elles sont remplies de puissance. Quand il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses cachées », quand il dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et grâce pour être secouru au moment opportun », quand il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous », il y a beaucoup de puissance dans ses promesses pour vaincre toute tentation. C'est comme avoir le Pacifique tout entier derrière soi, et cela renversera et anéantira la tentation jusqu'au fond de la mer. Ses promesses envers vous sont bien plus puissantes que les vôtres envers lui. Il est si important de s'en souvenir. Sa grâce et sa puissance sont libérées lorsque vous vous appuyez sur ses promesses et non lorsque vous faites vos propres promesses. Troisièmement, repentez-vous, c'est-à-dire repentez-vous et faites-vous baptiser. Pierre a dit dans Actes 2, verset 38, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. » Le grand spécialiste du Nouveau Testament, E.T. Robinson, a dit « Le baptême est le prédicateur incomparable de la nouvelle vie en Christ. » Mes amis, il ne s'agit pas d'une doctrine à débattre, c'est un commandement de Jésus auquel il faut obéir. Et puis finalement, recevez. Le verset 23 dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mes amis, l'enfer est mérité, le paradis ne l'est pas. C'est un don qui est reçu par la foi. Les gens doivent travailler très dur pour aller en enfer. C'est le résultat d'un salaire payé au cours d'une longue et pénible vie de péché. Mais la vie éternelle est un don qui est reçu. Et un cadeau non reçu ne sert à rien. Mes amis, si vous n'avez jamais reçu le don gratuit de la grâce de Dieu, je veux vous inviter à prier avec moi dès maintenant pour le recevoir. Vous ne pouvez pas le mériter ou être assez bon pour recevoir ce don. C'est un cadeau, c'est un don gratuit fait aux pécheurs. Jésus est l'ami des pécheurs. Où que vous soyez en ce moment, dans votre chambre d'hôtel, peut-être assis dans un bar en train de boire un verre, quoi que vous fassiez, où que vous soyez dans votre salon, vous pouvez mettre les mains sur le cœur et prier avec moi. Dites simplement « Jésus », dites-le à haute voix directement à Dieu. Dites « Jésus, viens dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as payé pour mes péchés sur la croix, que tu es ressuscité des morts. Jésus, allez-y, dites-le. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Et c'est en ton nom que je prie. Maintenant, mes amis, si vous avez fait cela, allez vous procurer une Bible. Commencez à la lire. Dieu vous parlera à travers la Bible. Il vous guidera à travers la Bible. Commencez par le Nouveau Testament, par le livre de Matthieu. Commencez là et lisez jusqu'à la fin. Trouvez une communauté chrétienne, aime Jésus sans honte et qui croit en la nécessité de le faire connaître aux autres et tout ira bien. Mes amis, vous êtes aimés de Dieu et nous vous aimons aussi.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.